entendez-vous, pas une chasseur orientale. Je réfute totalement cette
histoire. Moi, c'est une de Koumbati au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la crise de maîtrise des dents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue dans ce premier numéro de Parole aux auditeurs de cette semaine. Selon plusieurs rapports, la RDC se classe parmi les pays déficitaires en matière agricole et de sécurité alimentaire. Pour pallier cette situation, le gouvernement a proposé en 2011 la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Cette loi vise à stimuler la production agricole par l'instauration d'un régime douanier et fiscal particulier dans le but d'atteindre, entre autres, l'autosuffisance alimentaire. Certains observateurs estiment que l'application de cette loi permettra le développement d'un modèle de l'économie alternative pour le décollage de l'économie congolaise. Comment réagissez-vous par rapport à cette thématique? À l'adresse pa@radiocapi.net, vous pouvez déposer vos commentaires et vous avez également la possibilité de nous appeler directement au 081 890 63 15. Jean-Claude Siala est à la technique, Julie Fezabongonda et Pierrot et la Mégis sont à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente production de tout à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Mesdames et messieurs, il faut noter que cette loi vient de combler un vide en apportant une assise juridique à la politique agricole de l'RDC. Et cette loi a notamment pour objectif d'augmenter, comme je l'ai dit, la productivité et la sécurité alimentaire dans ces pays à grand potentiel agricole. Elle répond à une demande formulée depuis longtemps par les organisations paysannes congolaises et qui ont été consultées lors de son élaboration à travers notamment la CONAPAC, FOPAC, FAT et CIDIP. Nous avons en ligne un expert en agriculture, Bruno Kitiaka. Vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, cher Lungembo.
Alors, d'entrée des jeux, Bruno, quelles sont les innovations apportées par cette loi?
Oui, la loi portant principes fondamentaux à l'agriculture. Comme tu l'as dit dans ton introduction, c'était une loi qui a été voulue par tout le monde, le producteur agricole. Le gouvernement aussi, dans le souci d'encourager la production. Vous savez que notre pays importe des quantités énormes de nourriture, alors que nous avons des potentialités énormes de production agricole. Alors parmi cette loi devrait en principe lever quelques freins à cette amélioration de la production agricole dans notre pays.
Entre autres.
Donc, le plus important, c'était les exonérations des droits d'entrée. Vous savez que dans la production agricole, il y a des éléments qui interviennent. Et le plus important, ce sont des moyens de production. Parmi ces moyens, nous avons les machines, nous avons les matériels, nous avons les intrants agricoles, les engrais, les pesticides, les semences. Et tout ça, la loi a prévu que tous ces matériels, tous ces intrants agricoles soient exonérés. Alors, cette exonération devrait avoir comme conséquence la réduction sensible du prix, du coût de ces intrants sur le marché. Et si les intrants agricoles sont à bon prix, il y a la conséquence directe, c'est quoi aussi? C'est que les producteurs pourront avoir accès facile à ces intrants, ils pourront avoir des quantités énormes, ils pourront emblaser des superficies importantes, c'est-à-dire pourront augmenter leur surface cultivée, et à l'arrivée, on pourrait augmenter la production agricole dans tous les secteurs. C'est ça, en fait, le problème. Donc, plus on a un accès facile aux intrants, aux machines, aux différents matériels agricoles, plus on a la possibilité de produire suffisamment de la nourriture pour le pays et pourquoi pas exporter de la nourriture à l'extérieur. Donc c'est là le problème le plus important pour les producteurs. Mais en dehors de ça, il y a d'autres éléments importants dans la loi. C'est l'accessibilité par rapport à la terre. La loi prévoit qu'au niveau des provinces, qu'on fasse la part des choses entre les terres agricoles et les terres urbaines. Donc qu'il n'y ait pas de confusion autour des villes, entre les terres destinées à l'agriculture et les terres destinées aux activités agricoles. Mais il y a aussi le fonds de développement agricole qui devrait être, qu'on devrait mettre en place, qui devrait en fait financer les secteurs agricoles. Avec ce fonds, les paysans pourraient avoir accès facile au crédit à travers les banques, à travers les institutions de microfinance, avec un taux d'intérêt préférentiel. Donc, c'est tout ça qui est un peu bloqué, que je pense qu'il y a lieu qu'on puisse voir dans quelle mesure on peut relancer un peu la mise en application de cette loi pour que on commence quand même à relancer notre agriculture au niveau de la production agricole, au niveau de la base.
Oui, donc en d'autres termes, on veut intensifier la privatisation des opérations agricoles, donc pour encourager les paysans, encourager les investisseurs privés, que l'État se désengage un tout petit peu.
C'est exactement ça, parce que la production agricole, ce n'est pas l'affaire de l'État ou du ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture n'a pas un mandat d'aller faire des champs, tout ça, non. Ça, c'est le ministère de l'Agriculture ou le développement rural joue son rôle régalien. Mais c'est comme des producteurs. Il encadre les paysans à la base, les exploitations agricoles. Maintenant, on donne un peu plus de priorité à ce qu'on appelle les exploitations familiales. Donc, les exploitations familiales qui sont à la base, qui travaillent de petits espaces de terre, mais aussi il faut sécuriser ceux qui viennent investir dans l'agriculture. Ceux qui viennent investir dans l'agriculture. Si les coûts des intrants sont élevés, quand vous faites les calculs, on se rend compte que non, on est plus rentable et on est découragé. On ne peut pas investir. On ne peut pas investir. Donc, cette décision d'exonérer les droits d'entrée, on parle bien des droits d'entrée, pas seulement les droits de douane, mais les droits d'entrée. Okay. On peut faire la part des choses entre les droits de douane et les droits d'entrée, parce que quand on parle de droits de douane, c'est seulement la DGDA et puis c'est fini. Mais quand on parle de droits d'entrée, si vous allez dédouaner quelque chose, vous avez toute une liste, des impôts, des taxes que vous payez au commerce extérieur, vous payez à l'OCC, vous payez à la DGI, vous payez à l'OGFM, vous payez à SPI, vous payez à la province, vous payez à l'ONATRA, vous payez à l'armateur. Il y a vraiment toute une liste énorme que vous payez. Parce que moi, je sais de quoi je parle, parce que cette année, j'importe des intrants agricoles, principalement la semence de la pomme de terre de l'Europe. Je sais de quoi il s'agit. Donc, c'est les droits d'entrée. Si on paye, vous ne dites que la loi dit bien que les frais administratifs. Les frais administratifs, ça, on va les payer, c'est juste pour la fourniture des bureaux qu'on utilise pour les papiers qu'on utilise pour faire toutes ces opérations de dédouanement. Mais il n'y a pas de droit d'entrée. C'est ce qu'a dit la loi. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, les paysans continuent à acheter des engrais trop chers en Afrique centrale ici. Les semences coûtent trop cher. Pourquoi? Parce que les commerçants doivent gagner de l'argent. Et justement, il a payé énormément pour les douaniers, mais quand il arrive aussi, il doit encore payer d'autres taxes. Et tout ça, c'est sur le dos de l'exploitant agricole. Donc, à l'arrivée, c'est l'exploitant, c'est le pauvre paysan qui paye les prix de toutes ces taxes-là, qui sont en principe exonérées, comme on accepte les dire par la loi.
Bah alors, la loi n'est pas encore mise en application. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce retard? Parce qu'il était prévu que 6 mois après sa promulgation, en 2011, donc, qu'elle soit déjà mise en application. Mais aujourd'hui, 4 ans après, rien n'est encore fait.
Bon, la loi n'est pas appliquée, c'est ce qui est un peu bizarre, parce que, la loi a été votée au niveau du Parlement, les deux chambres réunies, le président de la République a promulgué cette loi en prenant une ordonnance. Et la loi a été publiée sur le journal officiel. Alors, maintenant, il était question, comme la loi prévoyait, 6 mois après, ça devait être mis en application. En fait, les 6 mois, moi, je pense, les 6 mois, c'était le temps pour qu'une commission mixte paritaire puisse rédiger les mesures d'application. Ce qu'on appelle les mesures d'application. Une commission interministérielle, ministère de l'Agriculture, ministère des Finances, c'est pas moi, le commerce extérieur, en fait, une commission gouvernementale qui devait s'asseoir autour d'une table et puis prendre des mesures d'application. Hein, c'est-à-dire comment on va appliquer la loi. Comment on va appliquer la loi. Alors, à ce jour ici, bon ben la commission, bon, on n'a pas vraiment de nouvelles. Moi, j'essaie de me renseigner. On dit que la commission continue à travailler. Et pendant ce temps, il y a aussi un travail qui devrait être fait, c'est de vulgariser cette loi. Beaucoup de Congolais ne connaissent même pas les aboutissants de cette loi. Il fallait que le gouvernement puisse vulgariser cette loi, que les mesures d'application, qu'un arrêté interministériel soit signé par les ministères impliqués, et à l'arrivée, bon, la loi est applicable. On sait quand vous importez vos semences, vos engrais, vos tracteurs, vos machines, vous savez que bon, ben, vous n'avez pas appelé la douane, il y a des règles que vous devez observer, il y a des papiers que vous devez peut-être obtenir au niveau des différents services pour vous faciliter l'enlèvement de vos marchandises. Voilà un peu...
Alors Bruno, selon nos informations, il y a quand même certaines contraintes qui font qu'aujourd'hui cette loi ne puisse pas être encore d'application, parce que c'est vrai, il y a un article qui met en tout cas en action, qui prend en compte toutes les questions transversales, l'article 16, et on sait tout de même que dans sa lettre du 11 août 2011, le président de la République démocratique du Congo a demandé au président du Parlement de revoir la loi, notamment la disposition de l'article 16, alinéa 2, sur les conditions d'attribution des terres agricoles en RDC aux étrangers. Donc, pour les chefs de l'État, il fallait prévoir des restrictions substantielles sur les acquisitions des terres agricoles par des entités étrangères. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, qu'en est-il sur le terrain? Certains observateurs estiment que déjà l'exemple de Bukangalonzo, où il n'y a pas des autochtones, il n'y a pas le pourcentage tel qu'exigé par la loi dans la composition de l'actionnariat, donc il n'y a pas de Congolais qui sont représentés. Donc déjà là, c'est un frein pour l'application de cette loi.
Oui, effectivement, bon, ben, ça c'est une information que tu me donnes, mais moi je crois que c'est une question qui devrait être déjà réglée depuis très longtemps. Hein, la loi a été promulguée depuis 2011, nous sommes en 2015. Il y a 4 ans. Et moi, je ne vois pas comment le Parlement peut garder un dossier en suspens pendant autant d'années, une matière aussi vitale pour le développement de notre pays. Pour Kangalos, c'est bien, c'est une bonne chose. Hein, ça contribue au développement de notre pays. Mais les paysans de Mbanzangungu, les paysans de Boulungu, de Idiofa, eux, ils ne vont pas leur revenir de chaque jour à travers Bukangalos. Et ils doivent acheter leurs semences, ils doivent acheter leurs engrais, ils doivent cultiver, ils doivent produire, ils doivent vendre. Donc, moi, je crois que cette question-là ne devrait pas mettre en veilleuse l'application de la loi. La loi étant votée, étant publiée, pour moi, il y a des mesures d'application qui doivent suivre, et puis qu'on permette à ce que bon, les gens puissent profiter de cette loi qui vraiment était bien fait pour vraiment encourager le développement agricole de notre pays. De cette façon, moi, je crois que c'est une question qu'on devrait poser au Parlement, qu'on nous dise un peu où on en est avec ces rectificatifs qu'il faut appeler ainsi, et pour qu'on aille de l'avant.
Merci beaucoup, Bruno. Nous vous gardons en ligne. Il est temps pour nous d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs qui vont participer à ce débat, tout en rappelant, bien entendu, la thématique du jour. Selon plusieurs rapports, la RDC se classe parmi les pays déficitaires en matière agricole et de sécurité alimentaire. Pour pallier cette situation, le gouvernement a proposé en 2011 la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, et cette loi vise à stimuler la production agricole par l'instauration d'un régime douanier et fiscal particulier dans le but d'atteindre, entre autres, l'autosuffisance alimentaire. 4 ans après, cette loi n'est toujours pas d'application. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Maître Timothée, vous êtes à Luisa, au Kasaï Occidental. Bonjour.
Bonjour, Maître.
Vous avez la parole, Maître Timothée.
Voilà, merci. D'ailleurs, le problème qui est dans notre pays, c'est que quand il n'y a pas, par exemple, une loi qui réglemente une matière, on suspend toute chose, on dit toujours s'il y a...
Maître Timothée, si vous pouvez commencer directement à répondre par rapport à l'option que nous avons levée dans cette émission. Pour certains observateurs estiment que l'application de cette loi permettra le développement d'un modèle de l'économie. Est-ce que vous partagez cet avis, donc l'économie alternative?
Oui, moi je crois que l'application de cette loi ne doit toujours pas à Mercel et satisfaire à l'alimentation dans notre pays. Mais moi j'ai préféré l'accepter, et comme nous avons tous parlé de la révolution de la modernité, il serait nécessaire à ce que l'on puisse d'abord moderniser cette agriculture. C'est-à-dire mécaniser l'agriculture congolaise à partir des moyens mécaniques qui fournissent par exemple des intrants nécessaires plutôt à la production. C'est ça que nous constatons que plus ça de la population qui consomme, plus de la population qui vit dans la ville. Alors que la population urbaine, c'est elle qui est là pour produire. Alors que la production de cette population urbaine est toujours insatisfaisante par rapport aux moyens qui leur sont offerts. Il serait nécessaire de mécaniser l'agriculture congolaise avec des tracteurs ainsi que d'autres moyens mécaniques pour que l'on puisse pallier à l'insuffisance alimentaire dans notre pays. Et puis nous constatons encore, surtout dans nos milieux rurales, pour quitter avec ces
problèmes d'évacuation.
Pour aller vers les ventes, par exemple, si tu vis avec Chikapa, il y a suffisamment de taxes ainsi que des arrières. Il y a suffisamment de documents et de l'administration fiscale, des autorisations de produits agricoles, tout cela, alors que ça ne sert pas. Ceux qui découragent surtout des producteurs agricoles et qui se trouvent au niveau rural à vendre des produits aisément dans les villes. Moi, il serait nécessaire d'abord d'assouplir ces taxes ainsi que ces redevances fiscales.
Voilà. Aussi les barrières. Merci beaucoup, Timothée. Là, vous partagez l'avis de notre invité qui parlait tout à l'heure de problèmes de droits d'entrée. Voilà, donc le problème lié au régime douanier et fiscal actuel, ce régime est loin vraiment de favoriser ou d'encourager l'agriculture familiale ou encore l'agriculture dans la diversité pouvant donner l'occasion de booster le niveau de la production en République démocratique du Congo. Merci, Maître Timothée, d'avoir appelé de Luisa au Kasaï occidental. Maître Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, j'y réponds depuis la semaine à tous.
Est-ce que vous pensez comme certains observateurs qui estiment que l'application de cette loi permettra le développement d'un modèle de l'économie alternative pour le décollage de l'économie congolaise?
Merci beaucoup, j'y pour le verbe. Et je voudrais d'entrée déjà vous dire que je fais mienne cette réflexion selon laquelle l'application doit être urgente et nécessaire. Tenez, j'y une loi est une expression populaire votée au Parlement pour résoudre un problème donné. Et selon la procédure à suivre, une loi commence par une initiative, elle est votée ou adoptée au Parlement et elle est promulguée. Et selon le principe élémentaire du droit, dès qu'une loi est votée au Parlement, dès qu'elle est promulguée par le chef de l'État, elle est censée être appliquée, sauf s'il y a une période transitoire, comme vous avez fait déjà 6 mois. Alors dans les contextes actuels, c'est ce que nous sommes en train de dire, tout cela a été déjà passé. Cette loi a été votée, elle a été promulguée, et la période transitoire de 6 mois pour permettre aux agriculteurs de s'adapter à la loi est déjà passée. On se pose alors la question de savoir, est-ce une nécessité cognitive des gouvernements, est-ce une indifférence de la population, ou il y a là une léthargie des agriculteurs? Pourquoi cette loi n'est pas appliquée? Tenez, j'y ai. Aujourd'hui, si vous lisez la loi, vous la comprenez profondément, vous allez vous rendre compte que sur le plan de la littérature, cette loi présente beaucoup d'avantages pour booster notre économie agricole. Mais hélas, nous remarquons jusqu'à ces jours, ça ne passe pas. Et pour moi, l'une des causes, selon mes propres recherches, ou les différentes causes qui font que ça ne puisse pas marcher, il y a d'abord, comme vous l'avez dit, la non-application de cette loi. Si vous lisez la loi, elle prévoit par exemple les allègements fiscaux douaniers en faveur des agriculteurs. Moi, lorsque j'analyse les faits, je ne suis pas passionné, je ne suis pas émotionnel, mais je suis séquentiel et sérieux. J'ai fait un tour à Bandundu, j'en ai fait également au Bas-Congo. Il faut voir comment les gens produisent, il faut voir comment les maïs sont produits. Mais si vous interrogez ces différents agriculteurs, ils vous disent quoi? Nous avons la volonté de desservir la population amateur de denrées alimentaires, mais les tâches qu'on nous demande, faites un tour à la barrière de Kingi, je suis à Bandundu. Il y a combien de services qui rationnent, n'est-ce pas, les agriculteurs? Il y a les services de la DGM. On se demande si, selon la loi, la DGM peut percevoir des taxes fiscales en matière agricole. Il y a les services d'économie, les services du commerce. Toutes ces tracasseries font que les gens produisent, mais ils sont fatigués et les matières agricoles pourrissent dans les forêts. Deuxième chose, c'est que cela prévoit l'accord de moyens aux agriculteurs. J'ai la matière agricole est une matière très complexe. Et lorsqu'on n'a pas assez de moyens en matière des intrants, on n'a pas de moyens, des engins, on ne peut rien faire. Ces gens n'ont rien. Et ils font cela avec leurs propres moyens. Que voulez-vous qu'on produise si on n'a pas assez de moyens pour le faire. Et il y a autre chose hier, il y a un problème sérieux de manque d'infrastructures. J'ai été récemment à Bandundu, vers les fins fonds, en allant vers Kikuti. Il y a un ami qui produit là, il m'a dit quoi. Il m'a montré plus de 1 hectare de choses qu'il a produites. Mais il ne s'est pas les desservi dans les fins fonds du village parce qu'il n'y a pas assez de moyens. C'est vrai que la route a été réhabilitée de Kikuti à Kim. Mais pour aller au fin fond des villages, la route pose toujours problème. On ne peut pas espérer que l'agriculture puisse booster notre économie si au fin fond, là où les gens produisent, ils ne savent pas faire quitter leurs marchandises et les amener en ville. Il y a un dernier problème, JR, un non-encadrement de ceux qui sont censés produire. Comme l'a dit l'invité, c'est vrai que l'État a fait sa part. Nous félicitons. Il y a la loi qui a été votée en 2011, il y a le parc à bois de frais de Kouralondjo, mais l'agriculture est avant tout l'affaire du privé, du paysan. Et si celui-là n'est pas encadré, aujourd'hui nous avons les réchauffements climatiques. Il y a des normes agronomiques. Pourquoi on a créé la faculté d'agronomie au campus? C'est pour dire aux gens qu'il ne suffit pas de cultiver, mais il faut le faire selon les normes. Est-ce que les agriculteurs congolais sont formés dans ces domaines-là? Il y a d'une part aussi les managements. Après avoir produit, que faut-il faire pour que ce que je produis puisse contribuer au pays et à moi-même? Les gens ne sont pas formés. Et que voulez-vous qu'on fasse avec cet état de choses? Pour ne pas monopoliser la parole, je voudrais citer avec mes trois solutions. Premièrement, JR, je tiens à dire que la santé alimentaire n'a pas de prix. Et l'État a l'obligation d'en assurer. Il faut premièrement appliquer la loi de 2011. Cette loi est engorgée de littérature mirobolante, mais si on ne l'applique pas, on sera en face d'une littérature vide et d'un chiffre de papier.
Oui, Omar, il y a quand même une inquiétude aujourd'hui en rapport avec les concessions des terres accordées aux personnes physiques non congolaises et aux personnes morales, toujours étrangères, qui ne sont pas majoritairement donc détenues, qui ne doivent pas être majoritairement détenues par les Congolais. Donc il y a des parts attribuées aux uns aux autres. Et c'est ça qui divise aujourd'hui. Il y a des investisseurs qui veulent avoir la majorité de départ et d'autres qui ne partagent pas cet avis. Et comment voyez-vous la chose, la question? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Maître Omar. On va prendre plutôt Victor qui est Ndouzi et qui est dans le Bas-Congo. Victor, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là, bonjour.
Vous êtes en Bas-Congo. Comment réagissez-vous, Victor?
Je pense que le mesure d'application de la loi portant principes fondamentaux de l'agriculture, ces mesures, je ne sais pas pourquoi ça traîne. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une pression des grandes entreprises, des grandes nations, des multinationales, pour que l'article 16, dont vous
l'article
avez parlé,
16, oui,
soit révisité. Mais moi, je ne sais pas. Est-ce que nous devons seulement faire l'agriculture en appelant tous ces investisseurs? Ou bien il faudrait aussi mettre des moyens aux citoyens congolais. Donc, nous avons plus de 30 ou 20 millions de paysans dans ce pays. Et donc, si nous réellement nous mettons des moyens à ces agriculteurs et qu'il y ait des routes et qu'on mette aussi l'énergie pour pouvoir transformer ou conditionner le produit dans de bonnes conditions, je crois que nous pouvons nourrir les Congolais. Mais faites attention à Bukangalondo. Bukangalondo, c'est pas un projet modèle. Et moi, personnellement, je ne crois pas. D'ailleurs, même les députés, chaque fois, ils ne cessent de poser des questions. C'est Bukangalondo, un projet qui n'a pas, dont les fonds n'ont pas été budgétisés. Donc, bref, un projet qui est tombé du ciel comme ça. Et ce n'est pas un modèle de développement à Bukangalondo.
Est-ce que vous pensez,
c'est
Victor,
plutôt l'enfant de l'agriculture familiale. Donc, voilà,
oui, Victor,
ce que je vais donner.
Oui, Victor.
Mais aussi, il faut faire attention à cet accaparement des terres dont on parle dans le monde. Quand même la Banque mondiale a lancé le signal d'alerte, pour dire que dans des pays où se passe beaucoup de corruption, notamment la RDC, eh bien, l'accaparement des terres des grands investisseurs risque de venir pour tout simplement rafler la terre et aussi s'imposer sur les semences. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils font la pression sur la révision de la loi sur l'agriculture en ce qui concerne l'article 16.
Est-ce que vous pensez que la révision de cet article va vraiment constituer un frein pour la relance de l'agriculture familiale?
Oui, parce que les paysans, ils n'ont pas assez de moyens, ils sont vraiment démunis. Aujourd'hui, si quelqu'un se présente avec 10 000 dollars, le paysan, il est prêt à céder sa terre. Donc, c'est un problème d'accaparement des terres qui risque de nous écraser dans ces pays. Vous savez, ceux qui ont de l'argent, voyez un peu l'exemple de ce qui se passe dans les mines, ce qui se passe dans la forêt. Donc, les gens prennent les terres pour exploiter le minerai, ils prennent la terre pour exploiter la forêt. Et il est retombé dans le budget national, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le budget national. Alors, s'ils nous prennent encore ce qui reste, la terre, Eh bien, sincèrement, il faudrait trouver une solution pour les 20 millions, 25 millions de paysans congolais que nous avons. Il faut trouver de l'emploi pour eux, sinon ils seront en chômage. Comprenez maintenant, par exemple, le ministre est autorisé à faire l'agriculture. Le ministre, le président, le député. Ils vendent sur le même marché que le petit paysan. Et ça crée déjà des problèmes. Alors si maintenant, en plus, nous prenons les grands investisseurs qui viendront, qui prendront la terre et qui vont vendre sur le même marché, il y a même, il paraît, un marché international, donc les gens peuvent venir vendre et acheter à Maluku, mais sincèrement, les paysans, ils n'auront plus leur place. Et ça, il faut être très, très prudent, très prudent. Autrement, ça va encore accentuer tout ce qu'il y a comme problème de chômage dans ce pays.
Est-ce que quand on arrivera à appliquer cette loi, et surtout dans sa disposition relative à l'exonération des droits d'entrée, en ce qui concerne les machines et les matériels, il y a d'autres civiques qui pourront en profiter pour ne fisquer à apporter au maximum, mais ça ne sera même pas des agriculteurs ou encore des opérateurs agricoles qui suffisamment d'ailleurs souffrent avec des problèmes d'argent, des problèmes de financement, qui seront à même de pouvoir importer tous ces matériels. Et il y a d'autres personnes qui pourraient en profiter, qui ne sont même pas opérateurs agricoles.
Oui, mais ça, c'est des choses que nous vivons déjà, et nous savons. Et dernièrement, il y a même le gouvernement qui a déploré ça en matière de communication. Il y a des gens à qui on a donné le marché pour pouvoir approvisionner les structures étatiques. Et finalement, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont importé de n'importe quoi au nom du gouvernement congolais et au nom de leurs entreprises. Et même maintenant, dans la construction de voies, de tout ce qu'il y a comme 5 chantiers ou quoi. Mais nous savons ce qui se passe avec les Chinois aussi, qui importent ce qu'ils veulent utiliser. Donc, c'est un problème. Mais tout ça, c'est la lutte contre la corruption. Et aussi, c'est le sérieux du gouvernement. Le sérieux du gouvernement. C'est-à-dire que dans l'agriculture, l'État congolais ne met presque rien. Je peux vous donner un petit exemple. L'État congolais a investi à Bukangalondo, et il a dit lui-même qu'il a mis 82 millions de dollars. Mais alors que deux campagnes agricoles, pendant deux ans, deux campagnes agricoles, au total, on a mis moins de 82 millions de dollars. Et d'ailleurs, on ne sait même pas ce que sont devenus ces campagnes agricoles, oui. Le résultat. Oui. Même les tracteurs, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc, nous sommes dans un pays où, finalement, on ne sait pas. On tâtonne 55 ans après l'indépendance, on tâtonne, on ne fait rien. Et moi, ce n'est pas sérieux. Et le gouvernement ne respecte pas aussi ses engagements. Vous prenez l'engagement de Maputo, où le gouvernement devait mettre 10% du budget dans l'agriculture. Il ne le fait pas. Voilà, on est dans une situation où pratiquement nous comptons plus sur l'extérieur, alors que nous avons un atout, la terre, l'eau, la population. Malheureusement, nous avons même des routes créées par Dieu quand vous avez le voie de navigation. Mais malheureusement, on a un État qui se désengage et qui ne pense pas à sa population et qui ne pense pas à la majorité. C'est malheureux.
Merci beaucoup. C'est vraiment malheureux. Merci beaucoup, Victor, parce que vous avez évoqué l'accord de Maputo. Il y a un auditeur qui nous a écrit, Laurent Bailanda Kambale, docteur. Il est docteur Bailanda, Laurent, qui est au Nord Kivu et présentement il séjourne à Kampala. Il dit ceci: l'État doit, à mon avis, attribuer un budget d'au moins 10%, comme c'était demandé à l'accord de Maputo, à l'agriculture pour relancer les activités et ainsi lutter contre l'insécurité alimentaire. Cheka, vous êtes à Kisangani. Bonjour Cheka. Cheka, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Cheka. Il est temps pour nous de rappeler à nos auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également émettre leur point de vue par rapport à cette thématique relative à la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture adoptée, votée, promulguée en 2011 et qui devait être déjà en application 6 mois après. 4 ans après, rien n'est encore fait. Donc, vous avez votre point de vue à émettre par rapport à cette thématique, comment vous réagissez, donc réagissez vite.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des Grands Lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour des provinces, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi. Thank you.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Nous poursuivons avec parole aux auditeurs, avec vous Bruno Kitiaka. Vous êtes notre invité, expert en agriculture. Vous avez suivi cette série des auditeurs. Alors comment vous réagissez par rapport à ce que les uns et les autres ont dit? Maître Omar qui a parlé de caractère urgent qu'on doit accorder donc à l'application de cette loi. Il y a également la procédure, toute la procédure qui a été déjà respectée. On a voté cette loi, elle a été promulguée. Qu'est-ce qu'on attend pour qu'elle soit, appliquée, parce qu'elle pourrait, selon Omar, apporter quand même beaucoup d'innovation et aider à booster l'économie congolaise avec cette économie alternative, donc l'agriculture. Alors, comment vous réagissez-vous, Bruno Kitiaka?
Oui, j'ai suivi les réactions des amis qui ont appelé, je bonde dans le même sens, mais je voulais simplement relever un fait, c'est que, vous savez, si vous allez dans notre pays, vous observez notre situation alimentaire, vous remarquez qu'il y a beaucoup de produits alimentaires qui sont importés. Nous importons tout, du riz, du farine, tout et tout et tout. Alors, si vous observez bien, vous remarquez que dans les pays où ces produits viennent, ces pays-là subventionnent l'agriculture. Je parle de l'Union européenne, même de l'Asie. Les agriculteurs qui sont là reçoivent des fonds pour financer, pour booster leur agriculture. C'est de cette façon-là que vous trouvez sur le marché congolais des produits alimentaires qui coûtent moins cher par rapport aux produits locaux. Un produit alimentaire produit localement coûte plus cher qu'un produit qui vient d'Europe. Est-ce que vous pouvez comprendre cette situation? C'est simplement dû par le fait que les agriculteurs dans ces pays-là, ils sont subventionnés. Malheureusement, dans notre pays, personne ne se soucie des subventions à l'agriculture. Yep. On ne se soucie même pas de ça. Ce qui fait que nos produits ne sont pas compétitifs sur le marché. Si vous allez sur le marché, vous trouvez un riz qui vient de l'extérieur par rapport à un riz produit localement. Non seulement celui qui produit localement n'est pas très présentable, mais il coûte plus cher que les riz importés. Simplement parce que celui qui est importé a bénéficié d'une subvention du gouvernement, de leur gouvernement. Nous, pour nous, ici, notre subvention, c'est les augmentations de ces droits de douane, c'est ces droits d'entrée au pays. Pour nous, c'est une forme de violation parce que c'est des fonds, en principe, qui devaient aller dans la caisse de l'État. Et quand l'État prend une loi, il dit que, non, cette fois-ci, moi, je ne veux rien recevoir de droits d'entrée des intrants, des machines, de matériel agricole pour booster l'agriculture. Mais c'est une forme de subvention. Mais pourquoi on ne peut pas aller jusqu'au bout et appliquer cette loi de manière à ce que nous, notre agriculture soit compétitive? Sinon, nous continuerons tous les jours à importer les viandes, les coupures, les dindons, les maïs, les riz, les légumes, les tomates, les produits frais venant de l'Europe ou de l'Asie. Donc ce n'est pas normal ça. C'est pourquoi je me joins avec tout ce que les collègues ont dit pour que ces mesures d'application soient vite édictées et que qu'on puisse vulgariser la loi. Là aussi c'est un problème parce que beaucoup de producteurs ne connaissent même pas cette loi, ignorent cette loi et de quoi elle parle et de quoi. Non, il faut qu'on vulgarise la loi, il faut qu'on vulgarise les mesures d'application et qu'on commence à l'appliquer. On commence à appliquer la loi. Moi, je crois qu'il n'y a pas de raison. Même fait, la résistance de cet article, ce n'est pas une raison pour ne pas appliquer la loi. Pour moi, je pense que la résistance de cet article ne peut pas bloquer tous les lois. Parce que sur la loi, il y a d'autres matières qui n'ont rien à voir avec le problème de terre. Mais on ne peut pas tout bloquer parce que il y a des gens qui ne sont pas contents de cet article, les gens qui ne se retrouvent pas parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils sont multinationales, ils font pression sur le gouvernement. Vous savez comment ça se passe, ce sont les multinationales qui dirigent ce monde. Alors, mais ça n'empêche pas que la loi soit appliquée. Moi, je crois que les lois, on fait toujours des modifications dans les lois. Je ne suis pas juriste, mais je sais qu'il y a des lois, on fait en cette année, 3 ans après, on les modifie, 3 ans après, on les modifie. On peut toujours revenir 3-4 ans après pour modifier cet article-là. Mais pendant ce temps, la loi doit être appliquée.
Bruno, aujourd'hui, ce n'est pas un secret. La RDC n'a pas encore signé la convention internationale sur la conformité des semences. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette difficulté de pouvoir exporter nos produits de l'extérieur pour réellement booster l'économie congolaise. Est-ce que vous pouvez quand même nous donner quelques explications par rapport à ça?
Non, pour exporter, pour exporter, moi je suis membre d'une organisation qu'on appelle le Comité de liaison Afrique, Europe, Caraïbes et Pacifique. C'est une organisation qui facilite les exportations de produits horticoles vers l'Europe. Alors, au niveau de l'Europe, il y a des normes simplement qu'il faut respecter. Il y a des normes dans votre itinéraire technique, hein, parce qu'il y a, au niveau de l'Europe, on suit vraiment la traçabilité des produits. On doit savoir votre tomate que vous exportez en Europe, comment elle a été produite. Donc, il y a cet effort-là que nous, techniciens, au niveau de l'agriculture, nous devons faire pour respecter les normes. Parce qu'il y a des produits, des pesticides, des engrais, des produits chimiques que nous utilisons, qui ne sont pas acceptés au niveau de l'Europe, mais nous aussi, nous les appliquons abusivement dans nos champs. Et ce genre de produits, quand ça arrive en Europe, on fait une analyse, on trouve des traces des produits qui sont prohibés là-bas, ça ne peut pas passer. Donc, l'effort est à faire à ce niveau-là. Donc, améliorer notre façon culturelle, notre technique, pour que nous puissions respecter les normes. Si nous produisons des tomates qui sont respectées, qui sont faites dans les normes acceptées par l'Union européenne,
mais
les tomates seront exportées en Europe et dans d'autres pays sans problème. Donc, d'autres pays le font. Je prends l'exemple. Au Cameroun, les Camerounais exportent même des bananes, des mangues. Hein. Au Ghana, on exporte des ananas à l'Union européenne. Pourquoi pas la RDC? Pourquoi pas la RDC? Simplement, nous devons respecter les normes. Parce qu'en Europe, ils ne sont pas comme nous et ils sont très méticulés pour leur santé. Donc, ils suivent de près. Ils font des analyses pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces produits. Si on trouve des traces de produits qui sont interdits, ça ne va pas entrer dans la zone euro. Donc, c'est un effort que nous devons faire au niveau de l'agriculture.
Est-ce que vous ne pensez pas que cet aspect technique, en tout cas la loi, doit quand même tenir compte de cet aspect technique des choses?
Oui, bien entendu, parce que y a cet effort, c'est le rôle du ministère de l'Agriculture, hein, du développement, là, qui ont cette responsabilité d'encadrer les paysans, les producteurs, de leur apprendre les meilleures techniques, les ONG aussi ont ces responsabilités. Donc, ça, c'est parce que nous devons, nous aussi, nous mettre à exporter nos produits. Nous ne devons pas être là simplement pour recevoir tout ce qui vient du monde. Et je me pose même la question, est-ce qu'à l'entrée, on fait des analyses pour voir est-ce que ces tomates-là, ces légumes-là, ils n'ont pas de produits toxiques là-dedans? Ça, je ne sais pas, j'ignore, mais nous devons aussi nous faire une effort pour que nous puissions exporter. Pour exporter, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons faire notre agriculture en respectant les normes voulues par celles qui vont, par les consommateurs étrangers qui vont accepter, qui vont vendre, qui vont acheter et qui vont consommer nos produits.
Merci beaucoup, Bruno. Nous regardons toujours en ligne le temps de prendre cette deuxième série des auditeurs, Félicien et à Kinshasa, Patrick Abatali. Félicien, bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à l'invité.
Voilà, c'est JR qui est à l'antenne, Félicien. Voilà, Félicien, vous avez la parole.
Oui. Ah, mais je suis très, très ravi par l'intervention de deux derniers intervenants. Ils ont presque vidé le contenu de mon intervention. Mais j'aimerais quand même poser une question. Pourquoi dans ce pays, on aime toujours inventer la roue? Donc, dans nos gouvernements, on dirait que c'est pour distraire l'opinion, bien c'est pour amuser la galerie qui travaille. Si nous considérons l'époque coloniale jusqu'à les années 1970, vous verrez que la République démocratique du Congo était soit premier, soit deuxième, soit troisième producteur de café, de caoutchouc, de maïs, de coton, de houde, de panne, etc., etc. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas à mesure même de nous nourrir nous-mêmes. Et à l'époque, les poulets importés, on l'avait même surnommé Bembe Yadoula, les gens n'en voulaient presque pas. Les Mpio dit personne n'en voulait, même ici à Kinshasa, c'est dit, quand vous mangez ça, on appelle ça la nourriture des pauvres, parce qu'il y avait des bateaux de pêche qui devaient alimenter les gens et nourrir les gens ici. Dans nos villages, il y avait les paysans étaient forcés de travailler parce qu'il y avait des moniteurs agricoles qui étaient toujours là présents et qui devaient surveiller le travail de chacun et tout ça. On ne mourait pas de cochon-corps. Mais aujourd'hui, dans les villages, même si les gens s'efforcent à travailler, ils savent même pas comment écouler le peu de produits qu'ils produisent. Les centres de recherche agricole, ils étaient là, comme les Yangambi et partout ailleurs dans toutes les provinces, parce qu'il y en avait. Mais quels sont-ils devenus, ces centres de recherche? Et on voit toujours dans quel état d'abord ils se trouvent, et où en sommes-nous avec la mécanisation de l'agriculture? Parce que nous avions quand même quelque chose. Nous n'avons pas cherché à garder ce que nous
voilà.
avions.
Nous avons suivi, Félicien, nous avons suivi la descente de l'actuel ministre de l'Agriculture, qui du reste est agriculteur, bon, en fait un agronome, parce qu'il a la technicité, j'imagine. Lorsqu'il descend devant l'ONC, l'Office National du Café, il dit ceci: après avoir relancé la culture vivrière, l'heure est à la relance de la culture pérenne, disons qui prend en compte les cafés, les cacaos et tant d'autres, vous l'avez évoqué, et bien entendu qui va être suivi par en fait un encadrement approprié avec des moniteurs. Donc je crois que c'est quand même une vision, mais il faut qu'on arrive pour que les résultats soient celui qu'on attend, que cette loi puisse être d'application. Mais 4 ans après, on ne sait pas, on est dans le flou, il y a une nébuleuse qui plane, tout le monde se pose la question: pourquoi ce silence radio?
Mais oui, mais quand on a déjà des références, quand dans le passé, on a réussi à faire une agriculture qui a fait de ce pays un pays respectable sur le plan international. Aujourd'hui, on doit être encore à chercher des lois pour que nous puissions produire. Mais moi, je pense pas qu'il y a un problème de loi dans ce pays. Il y a un problème d'application des lois, il y a un problème de volonté politique de travailler. Parce que quand nous voyons les tracteurs qu'on nous montre à la télévision qui viennent, et vraiment, c'est toute une publicité. Mais on ne voit pas où ça va et qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça produit. Et aujourd'hui, on est encore là, tourné en rond pour dire non, on va, il y a la loi au Parlement et tout ça. Moi, je pense que les politiques doivent être sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils doivent pas être là en train de faire du théâtre. C'est leur pays. Ils doivent travailler pour développer leur pays. Parce que c'est eux qui ont la responsabilité d'amener tout le monde au travail et non pas à faire ce qu'ils font à la télévision. C'est pas à la télévision qu'on va travailler pour...
Félicien, merci. Merci Félicien. Nous entamons notre dernier quart d'heure de cette émission Parole aux auditeurs. Avec vous Patrick, vous êtes à Matadi. Bonjour Patrick.
Bonjour Julien, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous avez la parole Patrick.
Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Hier, dans notre pays, c'est vrai, des lois ont toujours été votées. Mais malheureusement, ces lois souffrent d'une crise d'application. Vous imaginez un peu que cette loi a été proposée au Parlement depuis 4 ans durant, il y a. Mais cette loi ne s'applique toujours pas jusqu'à là. Je vais vous donner un petit exemple. Quand la RDC s'est adhérée à l'OADA, la RDC devait prendre une loi qui devait être consommée à l'OADA. Et malheureusement, il y a une loi sur le fonctionnement des institutions judiciaires qui avait été prise après 3 ans de la soumission au Parlement. Et cette loi est en contradiction avec l'OADA. Ça sera la même chose avec cette loi. En fait, l'agriculture évolue. Et puis les lois, il y a un principe de loi qui parle de l'élasticité des lois. Il y a 4 ans durant que cette loi a été prise. D'après mon préoccupation que j'aimerais poser hier, est-ce que cette loi aujourd'hui répondra-t-elle encore aux besoins actuels de l'agriculture par rapport au progrès scientifique? C'est deux. Est-ce que cette loi, par ses mesures d'application, va-t-elle se conformer aux différentes prouesses que la RDC fait aujourd'hui? Vous imaginez un peu, 4 ans durant, on n'a pas pu appliquer la loi. On risquera de tomber dans une sorte des crises d'application de cette loi par rapport aux réalités actuelles. Parce qu'aujourd'hui, le monde évolue. Aujourd'hui, l'agriculture évolue. Aujourd'hui, il y a d'autres semences qui ne peuvent plus être utilisées. Est-ce que la loi de 2011 ou la loi d'il y a 4 ans va-t-elle être compatible aux différentes réalités, M. Julien? Vous voyez un peu le problème. Donc, prendre des lois est une chose, mais savoir les appliquer en est une autre. Et surtout, les appliquer dans un contexte donné et dans une période donnée pour éviter à ceux qui se posent des problèmes d'application par rapport à l'évolution. D'autres pays, apparemment, nous sommes en train de reculer. Quand nous nous freinons, quand nous disons, on prend une loi, on les jette dans les tiroirs, on va l'appliquer après. Mais sur les terrains, les choses évoluent. Sur les terrains, les choses changent. On risquera de voir la RDC ne plus être à mesure hier.
Il faut mettre à jour. Il ne faut pas que cette gloire soit à la chronique.
Il faut que, cette demande, il faut que les autorités congolaises soient sérieuses. Lorsqu'une loi est prise, il faut l'appliquer déjà pendant cette époque-là, pour éviter que cette loi devienne...
Trois ans après,
voilà, parce qu'il y a d'autres choses qu'on doit prendre en compte aujourd'hui. On doit prendre d'autres méthodes d'application pour permettre à ce que cette loi-là soit appliquée et puisse être mise à jour.
Merci beaucoup, Patrick. Là, ça relance d'ailleurs la question sur que nous venons d'évoquer tout à l'heure avec un auditeur sur l'équilibre entre les différentes législations existantes dans la gestion de la terre, notamment les codes miniers, les codes forestiers et la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture qui vient d'ailleurs de s'ajouter. Donc il faut d'abord qu'on cherche l'équilibre pour arriver à avoir les résultats, sinon cette loi souffrira également d'application sur les terrains comme d'autres lois qui ont précédé et qui ont du mal à décoller. Merci beaucoup d'avoir appelé Patrick Debatadi. On va prendre Richard, docteur. Vous êtes à Kinshasa.
Oui, bonjour JR. Bonjour à l'invité et félicitations à tout le monde qui a parlé. Moi, je trouve qu'il y a la contradiction hein, dans les lois qui sortent. On sort une loi comme ça qui est restée une loi morte, qui tombe en désuétude, et on nous fait Bukangalonzo pour écraser le même peuple. L'État devient moins à Verni, moins à Ngouba, moins à Yampiodi, etc. Et qu'est-ce que le Congo va avoir? Et puis, sans compte, nous venons de fêter la libération du Congo par Mousé. Mousé était contre le néocolonialisme. Bukangalonzo, c'est le néocolonialisme parce que on laisse les chômeurs congolais, on engage les Sud-Africains. C'est ça. Ça, c'est le néocolonialisme. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nos législateurs cherchent? Et qu'est-ce que ceux qui dirigent, nous dirigent, cherchent?
Oui. Richard, nous avons dit ça au début de cette émission, que déjà, déjà les chefs de l'État avaient posé ces problèmes avant même que cette loi soit votée au Parlement, demandant aux deux chambres de pouvoir mettre un accent sur les acquisitions des terres par des entités étrangères et préciser l'impératif pour les nationaux de contrôler l'actionnariat des personnes morales.
C'est ça.
Et ce qui a été fait aujourd'hui, la loi a été votée, mais je crois que c'est vrai, quand on voit ce qui se passe, disons, au niveau de Bukangalonzo, pour ne répondre que vos mots, on se rend compte qu'il y a vraiment une contradiction. Cette loi est à une adéquation avec ce qui est fait sur le terrain.
Oui, mais c'est ça. Et en plus de ça, les petits producteurs feront de l'agriculture bio. Et Bukangalonzo asperge les pesticides et les engrais par avion. Et puis, les scientifiques du monde qui parlent contre les engrais et les pesticides, pourquoi nous ne les écoutons pas? Nous restons sourds, pourquoi? C'est ça le problème. Nous pouvons inventer la roue. C'est pas possible.
Merci
la
beaucoup.
Roue existe, il faut l'utiliser à bon escient.
Merci beaucoup, Richard, d'avoir appelé. On va prendre Maître Adrien de Kananga. Bonjour, Maître Adrien.
Oui, bonjour, JR. Bonjour à tout le monde.
Vous avez la parole, Adrien.
Oui, je pense que, JR, je salue d'abord la loi. Parce que vous devez savoir que nous évoluons dans un domaine où il n'y avait pas vraiment un cadre juridique bien précis. Je pense que comme la loi intervient, je pense qu'elle pourra vraiment résoudre beaucoup de choses. Donc là, c'est un point. Et puis, deuxième point, la loi à elle seule, bien que c'est une très bonne chose, elle ne pourra pas vraiment donc terminer toutes les difficultés qu'elle a. Tout ça n'est pas les compatriotes ont eu déjà à développer ou à avancer comme point de vue. Mais je pense qu'il serait aussi mieux que cette loi-là soit accompagnée d'une bonne politique, d'une volonté politique. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours visés à des problèmes tels que il y a d'abord le manque des intrants agricoles.
Oui, Maître Adrien, vous êtes sur la route, on dirait, parce qu'il y a un coup de vent là. Voilà, vous êtes sur la route à l'extérieur.
La province du Gassin occidental. C'est vrai que c'est une province où si tout était mis en ordre, on ne pouvait pas avoir de sérieux problèmes parce que ici, la ville de Kananga ne peut pas que des territoires tels qu'il est beau et moins ça. Mais lorsque vous arrivez sur place, vous savez qu'il y a vraiment la volonté de cultiver, mais la population est limitée par rapport aux intrants. Et puis, deuxièmement, il faut aussi penser à des routes pour aider la population à écouler leur marchandises. Il y a certains coins
qui protègent le Lumumba. Il y a des biens qui sont là, mais qui profitent à terre. Pourquoi? Parce que les routes ne sont pas praticables. Parce que je pense, la loi en soi, c'est une très bonne chose pour régler d'abord le cadre juridique et le reste des choses, il faut y faire la volonté pour nous.
Merci beaucoup, M. Adrien. On va prendre M. Sonville, qui est à l'Ombashi. M. Sonville, bonjour.
Bonjour M. J.R., bonjour à l'auditeur, à tous les auditeurs de Radio Capi, et bonjour aussi à notre invité.
Vous avez la parole, M. Sonville.
Oui, par rapport à la thématique, M. J.R., j'estime que seule l'exonération des droits d'entrée, du matériel, des machines, tout ça, ne suffit pas pour résoudre les problèmes de sécurité alimentaire. Parce qu'à l'instar de ces problèmes, il y a beaucoup de problèmes qui se posent, M. J.R. Vous savez que là, dans un pays où il n'y a pas la paix, le président ne peut pas se rendre au champ. Il faut aussi qu'il y ait la paix. Il faut que le gouvernement songe à mettre la paix partout. Vous savez, par exemple, à Beni, qui sont ces paysans-là qui peuvent se rendre à Mourousse, sans se rendre à leur champ pour cultiver? Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, il faut régler le défi énergétique. Si aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut conserver les produits agricoles si on n'a pas l'énergie? C'est un grand problème pour toute l'Afrique subsaharienne. Ça a été débattu à maintes reprises pour régler ces défis-là. C'est un défi énorme qui fera ce que la volonté politique dans cette loi-là puisse être concrétisée. Hormis cela, M. Gilles, quand il s'agit de dollars, ce dollar ne va pas profiter aux gens qui ont l'argent. Quel est ce paysan qui peut importer aujourd'hui un matériel? Quel est ce paysan-là? Et dans son temps, M. Gilles, du temps de M. Kabila, il avait exonéré tout ça. Il y avait des ONG en place des intrants, en place des engrais. Il faisait des fausses déclarations, il se faisait donner à des commerces. Il commençait à faire d'autres histoires à la place des intrants, à la place des engrais. Vous comprenez un peu. Il faudrait qu'il y ait un contrôle rigoureux dans cette fois-là. Hormis cela, M. Gilles, on parle aussi d'ici au Catalogne, nous vivons à l'expropriation des terres agricoles aux paysans, aux simples paysans. On leur exploite ces terres-là. Où est-ce qu'ils vont cultiver? On se dit qu'on a fait cette terre-là comme source de revenus. Et pour les Indonésiens, c'est tout un problème. Un monsieur là où on a exploité sa terre agricole, là où il y avait beaucoup de produits, on est mis avec 400 000 francs congolais. Et tout à ces 400 000 francs congolais, on lui.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ismaël, vous avez 30 secondes. Vous êtes avec nous à l'Ombashi. Ismaël, bonjour. Ismaël, vous êtes avec nous. Voilà, on est en direct. Ismaël, on sera obligé de revenir dans ce studio avec vous, Bruno Kisiaka. On va conclure cette émission. Vous avez suivi cette série des auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a les avis qui sont très, très, très partagés. Il y a d'autres qui ne soutiennent pas, qui estiment que l'exonération à elle seule ne pourrait pas résoudre tant soit peu les problèmes et ainsi booster la production agricole en RDC. Il y a une autre opinion qui pense que effectivement il faut l'exonération, mais au-delà de cela, il faut d'abord chercher l'équilibre entre les différents codes qui gèrent la terre, notamment les codes miniers, les codes forestiers et la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture.
Oui, JR, moi je pense que ils ont tout à fait raison, il n'y a pas que les droits d'entrée, l'exonération des droits d'entrée, mais la loi elle-même ne parle pas que seulement des droits d'entrée. Il y a des innovations. J'ai parlé tout à l'heure de la création du Fonds national de développement agricole. Ça, c'est quelque chose qui est prévu dans la loi. Il y a aussi la création du conseil consultatif, tant au niveau national que provincial. Alors ça, c'est des innovations, c'est quelque chose qui peut contribuer à booster notre agriculture. Et puis, bien sûr, la prise en compte de l'environnement. Je veux conclure, JR, en lisant, si vous le permettez, quelques objectifs assignés à cette loi qui sont présentés dans l'exposé des motifs de la loi. Là, on parle à stimuler la production agricole par l'instauration d'un régime douanier et fiscal particulier dans le but d'atteindre, entre autres, l'autosuffisance alimentaire. Relancer l'exportation des produits agricoles afin de générer des ressources importantes pour les investissements. Promouvoir l'industrie locale de transformation des produits agricoles, attirer de nouvelles technologies, énergie renouvelables et impliquer la province, l'entité territoriale décentralisée et l'exploitant agricole dans la promotion et la mise en œuvre du développement agricole. Favoriser la mise en œuvre durable des potentialités et de l'espace agricole intégrant les aspects sociaux et environnementaux. Je vous comprends que les législateurs, dans cet exposé motif, avaient vraiment ce souci de développer notre agriculture. Et qu'on atteigne ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Moi, je pense que la loi peut avoir des problèmes, il peut avoir un article qui pose problème, mais ce n'est pas une raison pour bloquer l'application de la loi. Je pense que la loi doit être appliquée, quitte à la modifier dans des procédures de prochaines sessions parlementaires ou comme ça se passe dans les matières juridiques, les lois sont toujours révisitées et modifiées selon les besoins. Mais pour l'instant, moi je crois que je lance un appel à toutes les personnes qui sont impliquées, que ce soit les parlements, que ce soit les gouvernements, le ministère de l'Agriculture, pour qu'ils mettent tout en œuvre, que les mesures d'application qu'un arrêté interministériel soit signé dans le meilleur délai, qui fixe les mesures d'application de cette loi et que cette loi soit appliquée, et nous pourrons voir apprécier dans quelle mesure elle pourra contribuer au développement agricole de notre pays.
Voilà, merci à Bruno Kikaka, vous êtes expert à l'agriculture, d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt. Nous profitons également pour dire merci à Jean-Claude Ciala et à toute l'équipe qui a produit cette émission Parole aux auditeurs, Pierre Lavégie et Gilles Pézabongonda qui ont été à la réalisation de ce programme, coordonné et présenté par J.R. Lou Gembo sous la supervision d'Elodar Moulamba. On prend rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs.